Bonjour à toutes et à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique Nasser Moussaoui. Nous allons pénétrer les secrets des économistes qui, depuis le début du XXe siècle, élaborent des modèles pour prévoir l'avenir. Une véritable industrie de la prévision est apparue avec des personnalités comme John Moody ou Irving Fisher et elle n'a cessé de se développer jusqu'à nos jours. Une industrie aussi décriée que sollicitée, les économistes sont régulièrement accusés de lire l'avenir dans une boule de cristal et pourtant leurs compétences sont toujours plus demandées. C'est cette histoire de la prévision économique et de son influence sur les politiques publiques qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour parler de la prévision à l'heure des grandes incertitudes, nous accueillons aujourd'hui Patrick Allard, économiste, consultant auprès du Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères et ancien haut fonctionnaire à Bercy. À 14h50, Xavier Martinet nous rejoindra autour de la table pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Patrick Allard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct aujourd'hui. D'abord, expliquez-nous peut-être, Patrick Allard, en quoi la prévision est selon vous au cœur même de l'activité économique.
C'est Alfred Sauvy qui disait qu'il est un des pères de la comptabilité nationale en France et de la prévision économique, qui disait que la prévision est pour l'homme un acte aussi nécessaire et aussi fréquemment répété que la respiration. Il allait quand même très loin et il disait en disant cela que l'ensemble des actes économiques qui forment l'activité dans un pays sont le résultat d'une myriade de décisions prises par une myriade d'acteurs, par des milliards à l'échelle mondiale, tout simplement, ces populations. Et tous ces gens qui agissent, agissent en fonction d'anticipations qui se font du futur, par définition, qu'on consomme. Alors, il y a des actes qui engagent des prévisions à court terme, à très très court terme, quand on achète le pain pour ce soir, par exemple. Mais il y en a d'autres qui vont beaucoup plus loin. Quand on achète un appartement, on s'endettant par exemple à 30 ans, on fait un pari sur le flux de revenus qu'on aura dans le futur.
Et ce besoin d'anticiper l'avenir concerne les individus, mais aussi les entreprises, les banques, les États.
Exactement. Absolument tout le monde fait les prévisions. Des individus les plus... tout le monde, vraiment monsieur, madame, tout le monde, et également les États. Historiquement, les premiers qui ont fait un exercice de prévision venaient du secteur privé principalement, ou du secteur universitaire. Et c'était principalement des gens intéressés à la spéculation boursière. Donc, en considérant qu'il y avait un lien entre l'activité économique et les cours de la bourse, qui mérite d'être discuté, mais bon, qui est quand même postulé tout le temps, et probablement vérifié, Ils se sont lancés.
C'est le cas, pardon, par exemple, de John Moody qui va donner son nom à l'agence de notation Moody's.
Exactement. Donc, alors lui, c'est quelque chose d'un peu... Donc, les gens qui ont fait les prévisions, c'est des gens qui étaient soit des boursiers, c'est des gens qui avaient fondamentalement intérêt, un intérêt économique ou un intérêt d'une autre nature à faire des prévisions. Soit encore une fois parce qu'ils envisageaient de prendre des positions à la bourse, soit dans le cas de Moody parce qu'ils voulaient informer sur les cours de la bourse et gagner de l'argent en faisant ça. Il a fourni et il a créé son agence de notation où il a, à partir de laquelle il a accumulé des quantités de statistiques sur le comportement des entreprises lui permettant de prévoir que telle ou telle entreprise était plus ou moins risquée que d'autres. Et on travaille, donc ça donne des notations sur lesquelles on travaille encore. Donc tout le monde fondamentalement fait des prévisions, mais tout le monde ne fait pas le même type de prévision. Il y a des prévisions beaucoup plus sophistiquées que d'autres. Celles que je fais tous les jours pour la journée sont des prévisions simples à partir des éléments que j'ai. D'autres acteurs ont les moyens, se sont donné les moyens, parce qu'ils ont intérêt à le faire, parce qu'ils ont les moyens de le faire, de faire des prévisions qui sont beaucoup plus sophistiquées. Historiquement, donc, les premiers qui ont fait ça, on vient de les évoquer, c'est des gens qui, en fait, faisaient une prévision un peu particulière qui consistait fondamentalement à prévoir le présent. Parce que le présent, ben, c'est comme le futur, quelque chose de déjà très opaque. Quand vous êtes dans un monde où vous n'avez pas beaucoup de statistiques, vous n'avez pas encore de modèle. On est au début, fin 19e, début 20e aux États-Unis, et puis en France également, et en Angleterre, et en Italie, enfin plein d'autres pays, et en Allemagne. Vous n'avez pas beaucoup de statistiques, vous n'avez pas de modèle, mais vous avez quelques informations venant des marchés, et puis vous avez éventuellement des informations que vous pouvez recueillir auprès des entreprises elles-mêmes, par des sondages. Enfin, pas des sondages, mais des enquêtes plutôt. Déjà, donc, ça a été fait très tôt, finalement, mais ça revient fondamentalement à prévoir le présent. La prévision, telle qu'on la connaît, ce dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu plus tardif, et fondamentalement, c'est lié à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Alors là, dans certains pays, elle s'est plus ou moins confondue avec la planification, dont on va reparler, qui était un exercice un peu différent, mais qui a partie liée, bien évidemment.
Je vois que vous voulez... Eh bien, on va en parler, oui, justement, de la planification. Je voudrais, avant d'en discuter, vous faire entendre une archive INA de 1964.
Si 42% des ménages français ont aujourd'hui une voiture pour se rendre à leur travail, se promener ou partir en vacances, c'est parce qu'il y a 5, 10 ou 20 ans, d'autres hommes ont fait des prévisions, c'est-à-dire un plan. Le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire, signe le 3 janvier 1946 un décret créant un commissariat général au plan. Son animateur, son chef, c'est Monsieur Jean Monnet. C'est un moment capital de notre histoire. La France entre dans l'ère de la planification, c'est-à-dire de la prévision à long terme de l'économie. Le commissariat au plan, essayons de l'expliquer schématiquement. Une grande maison où les économistes discutent avec les représentants de toutes les professions, discute de l'avenir de la France. C'est un appareil à observer les rouages complexes de l'économie, une machine à digérer les statistiques et à les transformer en prévisions.
Avec la création du commissariat général au plan en 1946, l'État s'empare de la question de la prévision économique, Patrick Allard ?
Ben, en réalité, non, pas tout à fait. L'État français a fait de la statistique, d'une part, parce que c'est un ingrédient de base hein, à la prévision et à la planification. Il la faut. Hein. Si on ne l'a pas, on ne sait même pas de quoi on parle, hein, fondamentalement. Donc la statistique naît à peu près dans la même période. Le premier cas de comptabilité nationale, il me semble me souvenir que c'est en Allemagne qu'on a fait ça dans les années 30. Et ça, pas par hasard, l'Allemagne. Hein. L'Allemagne, c'est le pays qui avait à payer les réparations à l'époque. Donc c'était un pays qui était lourdement endetté à la suite de la guerre, et donc qui voulait savoir où il en était. Donc on a commencé à essayer d'estimer combien on produisait chaque année. Donc il faut ces statistiques. Dans l'après-guerre, ce qui s'est produit, c'est à la fois dans certains pays, mais pas dans tous, hein, loin de là, hein, de la planification telle que vous l'évoquez, telle que l'archive l'évoquait, mais en France comme ailleurs, on a fait aussi autre chose qui consistait à faire de la prévision à beaucoup plus court terme. La planification, c'est un mélange de prévision, de souhaits, de volonté politique sur une relativement longue période. Hein. C'est plutôt 5 ans. 5 ans, pourquoi 5 ans? Ça pourrait être 6, ça pourrait être 7. Mais clairement, c'est inspiré de la planification soviétique qui faisait des plans à 5 ans, même si les modalités n'ont rigoureusement rien à voir. Donc on a fait ça, mais on a eu aussi besoin, principalement pour des raisons budgétaires, de crédibilité du budget, de bonne gestion des ressources, on a eu besoin de faire des prévisions économiques qui pouvaient soutenir une prévision budgétaire. Le budget, le rythme du budget, en France comme ailleurs, en général, c'est une année. Donc, vous avez régulièrement, quand un gouvernement présente un budget, il vous dit, voilà, dans ce budget, il y aura tant de dépenses, mais il y aura aussi tant de recettes. Et les recettes, c'est l'économie, c'est articulé à l'économie.
Et c'est dans ce contexte que l'INSEE, qui effectivement est créé également en 1946, exactement, lance un certain nombre de missions, parmi lesquelles le calcul des indices des prix, mais aussi des enquêtes sur les budgets des familles, le logement, la santé.
Alors l'INSEE, l'État, Il faudrait ajouter aussi la Banque de France dans cette affaire, hein, dont on n'a pas parlé, qu'on va appeler tout ça l'État. Hein, c'est des morceaux de l'État, des silos de l'État, mais c'est la même, c'est une politique économique globale qui se met en œuvre comme ça. Oui, effectivement, l'État, donc, il s'est chargé en France, pour une bonne part, du travail de prévision du présent dont on parlait à l'instant, à travers la collection d'enquêtes sur les intentions des entreprises, mais aussi de statistiques à très court terme sur l'activité économique, dans l'industrie principalement, dans les services, etc. Donc, il y a eu ça. Mais il a fait aussi, il s'est très rapidement aussi doté des moyens de faire ce qu'on appelle donc des budgets économiques. Donc, qui sont des prévisions à 18-2 ans. C'est grosso modo qui couvrent une période budgétaire et l'année qui suit. Et il a fait ça parce qu'on voulait quelque chose de calé, quelque chose de sérieux, quelque chose qui reposait sur des données, et puis qui ait un minimum de crédibilité. Parce que qui est-ce qui fait le budget? C'est comme le ministère des Finances. Et qui écrit les chiffres? Le même ministère des Finances. Il y a toujours un risque que ses souhaits soient confondus avec la réalité à venir, etc. Donc du coup, il y a un problème de crédibilité. Puis les parlementaires, un budget s'est voté, les parlementaires demandaient une information objectif. Et l'INSEE était un organisme objectif rempli d'une myriade d'experts parfaitement compétents avec une autorité particulière. L'INSEE est de ce point de vue-là déjà une agence. On n'appelait pas comme ça à l'époque ce genre d'institution, mais c'est bien ça. Ils ont un mandat. On ne peut pas demander au directeur de l'INSEE de faire, de se coucher et de tordre les chiffres pour faire plaisir au gouvernement. Donc il a une indépendance, il a un mandat qui est surveillé, qui est fondé dans la loi et donc qui permet d'avoir une espèce de conférer une espèce de crédibilité à cette activité.
C'est une façon de donner un gage scientifique à des politiques. Oui. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas derrière la planification et ce commissariat général au plan l'idée que l'État, plus que le marché, est capable de choisir les bons investissements à long terme? C'est en tout cas l'idée qu'on veut renvoyer.
Regardez, l'année c'est 1946. C'est juste après la guerre et dans une période de reconstruction. Après des destructions considérables, et en même temps que la reconstruction, à l'époque, on envisageait clairement la modernisation. La France de l'époque est perçue par ses dirigeants comme un pays qui avait perdu beaucoup de dynamisme, qui avait vieilli, enfin, qui s'était pas adapté suffisamment dans la période d'avant la guerre. Donc il y a l'idée à la fois il faut reconstruire, et en même temps moderniser. Et effectivement, il y a l'idée qui s'impose que l'État est mieux placé que le marché pour le faire. D'un strict point de vue théorique, alors du point de vue de la théorie économique, on y croit et on ne croit pas, il y a eu plein de débats pour savoir ce qui est mieux, le plan ou le marché. C'est indécidable. Mmh. Les deux mécanismes fonctionnent pour autant que l'information soit là, soit exacte et soit bien partagée, etc.
Mais le fait qu'il y ait eu de la croissance pendant 30 ans, les 30 Glorieuses, ça a souvent donné des arguments à ceux qui défendent justement la place de l'État et l'intervention de l'État dans l'économie.
La raison d'être la principale raison d'être qui permettrait de pencher plutôt en faveur de l'État qu'en faveur du privé, c'est qu'en fait, on va plus vite avec l'État si on veut mobiliser quelque chose, donc on va plus vite aux résultats attendus. Mais il n'est pas forcément meilleur, donc par rapport à la question que vous posiez, le choix, notamment des investissements, des bons investissements, probablement non. En réalité, oui, si on a décidé de faire quelque chose, alors il vaut mieux le faire, et on a besoin de le faire vite, il vaut mieux le faire par le plan. Mais dès que l'urgence cesse, probablement il faudrait mieux en venir à des mécanismes de marché.
Et puis cela dépend peut-être de la période économique dont on parle, parce qu'on va voir que les prévisions économiques se heurtent à un certain nombre d'obstacles. Écoutez Pierre Masset, le successeur de Jean Monnet à la tête du Haut Commissariat au Plan, dans une archive du 1er septembre 1965.
La planification a buté sur l'aléa. Elle a buté sur l'aléa de plusieurs manières. D'abord, notre économie s'ouvrant sur l'extérieur, nous avons rencontré l'action de centres de décision différents des centres de décision français. Nous avons eu à compter avec eux, et c'est une sorte de jeu qui s'est établi entre eux et nous. Et d'autre part, même à l'intérieur du pays, nous avons eu à compter avec la liberté des comportements. Il n'en est pas moins vrai que le plan apparaît de moins en moins comme un programme établi à l'avance, né variétu. Et peu à peu, on se rend compte que ce que doit faire l'État, ce n'est pas ce programme des variétures, c'est une stratégie. Il faut, en effet, non pas peut-être prévoir l'imprévisible, ce qui serait bien difficile, mais s'y préparer. Il faut avoir réfléchi à ce qu'on ferait dans telle ou telle éventualité. De deux choses l'une, dit-on, en général c'est une troisième qui arrive, mais le fait d'avoir réfléchi à certaines choses qui peuvent arriver est une gymnastique de l'esprit qui vous rend apte à réagir rapidement quand un imprévu véritable survient.
Les changements que connaît l'économie dans les années 60, mais plus encore, on va le voir, dans les années 70, vont rendre plus complexe la planification, Patrick Allard ?
C'est ce que vient de dire Pierre Massé, hein, c'est qu'en fait, on est confronté à l'ouverture, il a mentionné ça, et donc à l'impact de décisions prises en dehors de la France sur le mouvement économique en France. Et puis, il a mentionné les libertés des gens, à savoir le comportement des individus, ceux-là même dont je parlais tout à fait au début, hein, qui font l'économie. Ça a toujours été une réalité. Simplement, dans une économie qui a retrouvé plus de richesse, plus d'un niveau de vie plus élevé, où il y a plus de possibilités de choix à la fois de consommation, d'investissement et autres, etc. Et on trouve ça bien, plutôt que d'avoir une économie de pénurie, où c'est rationné, vous êtes confronté en fait au choix des individus. Alors c'est des choix microscopiques, mais multipliés par le nombre d'agents, c'est quelque chose dont vous perdez fondamentalement parfois la vision et en tout cas la maîtrise. Donc ce que suggérait Pierre Massé, c'est qu'en fait le plan devienne une espèce d'instance de réflexion sur ce que pourrait être grosso modo l'avenir et pour se préparer à d'éventuels chocs inattendus. Il pouvait pas anticiper le choc pétrolier, mais c'est typiquement le choc auquel on pouvait penser et qui a donné lieu à la création du CAPS, où je suis consultant, et qui date de quelques années plus tard, 73 bien évidemment, mais c'est bien ça qui s'est produit.
Vous l'avez dit, la mondialisation a changé la donne, mais alors pourquoi est-ce que c'est difficile, Patrick Allard, de planifier une économie ouverte ?
Ben parce que, alors, une économie ouverte, faut bien voir ce que ça signifie. On a des économies maintenant qui sont ouvertes de plein de manières. Alors, il y a l'ouverture traditionnelle, classique aux échanges commerciaux. C'est une réalité pas totalement absolue pour un pays comme la France, mais en tout cas, c'est absolu vis-à-vis de ses partenaires du marché unique. Et puis, pas mal vis-à-vis du reste du monde. On n'a pas une protection extraordinaire en France, hein, en moyenne. On est très protégé sur certains produits, les produits agricoles, mais pour les produits industriels, on a une protection en règle générale qui est modeste. Donc il y a ça. Il y a le mouvement des personnes. Alors c'est loin d'être absolu, encore moins absolu que le mouvement des biens, mais tout de même, à l'intérieur de l'espace Schengen, on va où on veut. C'est tout le problème, d'ailleurs, hein, des frontières de tout ça. Il y a l'aspect financier, bien évidemment, qui est une réalité, elle, là encore, pas absolue. Il y a plein de frictions. Les gens préfèrent encore placer ou s'endetter auprès d'acteurs du même pays, hein, donc grosso modo qui ont les mêmes instances de régulation parce qu'on les connaît mieux, on a plus confiance, ou bien il y a un mécanisme de protection, par exemple des dépôts, par le biais de votre État, donc il y aura une préférence, il y a un home bias, hein, comme on dit.
Et en quoi ces différents flux, justement, ont entraîné le fait que les plans perdent peu à peu de leur pertinence ?
Vous avez d'abord les prix, vos prix, par rapport au reste du monde, fluctue d'une manière que vous ne pouvez pas contrôler, puisque ça va être l'effet des mouvements de change, et les mouvements de change vont être les résultats principalement des mouvements de capitaux. Et ces mouvements de capitaux, alors là, pour le coup, ils sont engendrés par des anticipations sur ce que va être la politique du pays dont on parle, et puis ailleurs, parce que les choix, les possibilités de choix pour les investisseurs, c'est à l'échelle mondiale qui sont dès lors que vous avez le libre mouvement des capitaux. Donc il y a ça. Et puis, lorsque vous avez libre accès à des marchandises venant d'autres pays, vous ne maîtrisez Vous savez qu'il y aura des importations, forcément, puisque les marchandises circulent librement à l'intérieur, enfin relativement librement à l'intérieur de certains espaces, et donc vous maîtrisez mal vos flux d'importation. Or, une importation, c'est bien pour moi qui est content d'avoir accès à des produits que je préfère parce que c'est un produit étranger,
c'est pas moins forcément bien pour l'industrie française.
Voilà, exactement. Mais alors... bon, ils ont qu'à faire mieux après tout. Hein. Enfin, bon. Je devrais pas dire ça.
Eh ben, ils vont peut-être faire mieux grâce à ce retour du Haut Commissariat au Plan. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, le Haut Commissariat avait été officiellement supprimé en 2006 par un décret du Premier ministre Dominique de Villepin. Et c'est France Stratégie qui, jusqu'ici, jouait le rôle de prévisionniste, Patrick Allard.
Ah non, non, non.
Entre autres, bien sûr.
Oh, même assez peu. Non, non. France Stratégie était plutôt l'instance dont parlait Pierre Massé tout à l'heure dans l'extrait sonore que vous avez diffusé. C'est vraiment l'État qui se pose les questions sur les grandes questions stratégiques auxquelles il va être confronté. C'est-à-dire, il faudrait ci, il faudrait ça, il faudrait plus de formation, plus d'emplois dans tous les tels secteurs. Ce serait pas mal qu'on développe, je ne sais pas moi, telle ou telle industrie. Donc c'est plutôt ça qui fait. La prévision, non, en France, elle est faite plutôt par l'INSEE, par l'État. Le reste de l'État, par l'État, par l'INSEE, par le ministère des Finances, par la Banque de France.
Par l'État, mais aussi de plus en plus par des organismes
alors,
privés.
Exactement. Alors, aujourd'hui, l'État, on l'a dit au début, en fait, les États n'ont jamais eu le monopole de la prévision. En France, pendant un moment, ils l'ont eu, hein, clair, il l'a eu en France, mais pas dans d'autres pays nécessairement, mais il l'a abandonné, et l'État l'a volontairement abandonné, hein, en 78, du temps de Raymond Barre, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. L'État a créé, il a aidé à la création, y compris par des dotations financières, à la création d'un autre institut de conjoncture qui s'appelle l'Office français des conjonctures économiques. On voit son directeur aujourd'hui encore faire état de...
Il était à cette table ici même,
exactement,
hier.
Bien évidemment, et qui dépend de Sciences Po, et qui fait des prévisions économiques de grande qualité, et qui est capable de juger, c'est tout ça qui compte, hein, les prévisions que fait l'État, et d'avancer des arguments scientifiques, à la hauteur, hein, en définitive, de ce que propose l'État. Donc et les experts circulent. Bon, et sincèrement, c'est le même monde d'experts qui se comprennent, qui se parlent. Et puis, ajoutez à ça que les prévisions en France, donc elles se font sous le regard donc d'instances privées, d'instances quasi publiques, disons, comme celle-ci. Un tas de gens font des prévisions parce qu'ils ont encore une fois intérêt à le faire. Donc les banques en font, les grandes banques en font.
Les assureurs.
Les assureurs en font, les groupements professionnels en font, certaines grandes entreprises. Vous avez certainement eu l'occasion d'inviter les directeurs de la planification chez Total. Enfin, Total a des idées a besoin d'avoir des idées sur le monde dans 5 ans parce qu'il a besoin d'avoir des idées sur le prix du pétrole, sur la demande de pétrole. Bon, tout ceci est évident. Donc beaucoup d'acteurs interviennent qui font eux, tout le privé fait ça pour des raisons soit économiques, soit financières. Et puis vous avez des instituts qui ne sont pas publics, mais qui sont au sens national, mais qui sont les institutions internationales. Les prévisions françaises, elles se confrontent, c'est confronté le mot qui convient, hein, avec celles que fait le FMI, avec celles surtout que font les institutions européennes. La Commission en fait est de sérieuse et élaborée, et la BCE aussi en fait.
Donc, alors on va voir si cette multiplication est plutôt une source de richesse ou peut poser certains problèmes. Mais d'abord, venons-en à ce retour du Haut Commissariat au Plan qui est rené de ses cendres et qui sera dirigé par François Bayrou, le président du MoDem. Je vous propose de l'écouter lors d'une interview réalisée le 9 août dernier.
Le commissariat au plan, en effet, que je défends depuis très longtemps, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que, quand on gouverne, la conscience, la prise de conscience des problèmes, qui sont les problèmes du temps long, les problèmes à plusieurs décennies, que c'est absolument indispensable. Je me souviens d'avoir annoncé un jour une candidature dans une de mes aventures présidentielles, sous la phrase « gouverner, c'est prévoir ». Or, ce qui me frappe, c'est que, quand je regarde le monde, La Chine gouverne à 30 ans. Bien, mal, c'est pas mon orientation, comme vous savez. Mais la perception des problèmes est une perception qui se compte en décennies. Exemple, comme vous savez, la Chine multiplie les achats de terres à la surface de la planète. Pourquoi ? On voit bien que, probablement, entendent-ils, devancent-ils une baisse des ressources qui tiennent à la Terre. Donc, 30 ans. Nous gouvernons à 30 jours, quelquefois à 30 heures.
Que vous inspirent ces propos de François Bayrou à Patrick Allard ? Et plus largement, quel regard portez-vous sur cette idée de revenir à la planification en France ?
Cette idée revient dans une période qui n'est pas n'importe laquelle. Hein. C'est à l'issue du début de la pandémie. La pandémie n'est pas encore finie, loin de là, probablement. Et donc, c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce contexte-là qu'elle intervient. C'est un contexte, en fait, où il y a quelque chose qui est l'équivalent. Le président Macron avait parlé d'une guerre à une époque, hein, à un certain moment, dans ses premiers discours. C'est pas une situation de guerre normale, puisqu'il n'y a pas de destruction physique, comme il peut, mais il y a énormément de destruction d'emplois, de liens sociaux, de relations, etc., qui comptent énormément dans l'économie, parce que elles encadrent les anticipations des uns et des autres, elles donnent des directives, elles canalisent les comportements, elles réalisent un travail très relativement efficace, enfin fondamental, hein, et relativement efficace, de mise en harmonie des prévisions des uns et des autres, des anticipations des uns et des autres.
Donc c'est important pour la crise sanitaire, mais peut-être aussi parce que l'on est dans une période de transition écologique, avec aussi la nécessité peut-être d'un rattrapage numérique en Europe.
Moi, je mettrais l'accent sur l'idée qu'on va traverser pendant un long moment une phase d'incertitude liée à la pandémie n'est pas finie. Et donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se finira. Et personne aujourd'hui n'est capable de dire quoi que ce soit là-dessus. Or, la pandémie a plein d'effets sur l'économie. Parce qu'elle induit des comportements de frilosité, bien compréhensible, ce qui fait que les gens épargnent plus qu'antérieurement. Hein, c'est l'un des problèmes... c'est bizarre, hein, que les ménages épargnent trop. Donc, il y a trop d'argent dans l'économie. Hein. Le gouvernement s'en inquiète. Donc, il y a beaucoup de comportements de frilosité. Ça, c'est vrai pour la consommation. C'est plus vrai encore pour le comportement des entreprises. Vous êtes un groupe hôtelier. Vous investissez. Où, quand, comment, dans quoi ?
Or, ce manque d'investissement risque d'avoir effectivement des répercussions beaucoup plus tard. Mais alors, selon Mediapart, François Bayrou a reconnu lui-même qu'il n'y aurait pas de planification au sens propre. On peut se demander, Patrick Allard, si on n'a pas créé ici un énième et simple organisme de prospective.
Non, je ne crois pas, précisément. On repart de cette idée de grosse incertitude, et en particulier qui se portera sur les investissements. Il n'est pas exclu que, comme à la fin de la guerre, comme en 1946, on a besoin de quelque chose, probablement c'est d'une intervention de l'État sous forme d'investissement, ou d'aide à l'investissement, ou d'incitation à l'investissement. On va l'avoir, hein, le plan de... Alors, c'est l'investissement, encore une fois, dont l'objectif, alors cette fois-ci, après la guerre, il était à la fois de reconstruction et de modernisation. Cette fois-ci, il n'y a pas à proprement parler de reconstruction, mais il y a besoin de modernisation. Modernisation et puis verdissement, ce que vous évoquiez à l'instant.
Mais que le besoin soit là, je pense que beaucoup d'économistes sont d'accord là-dessus. En revanche, sur la capacité d'action réelle de ce Haut Commissariat au Plan, il faut rappeler que le rôle du Haut Commissariat au Plan après la Deuxième Guerre mondiale, c'était de rédiger, donc vous l'avez dit, un plan quinquennal qui fixait les objectifs de l'action publique en matière économique et sociale. On n'a pas le sentiment que c'est véritablement la marge de manœuvre que va avoir le Haut Commissariat dirigé par François Bayrou.
Il va falloir faire de la programmation. C'est un mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'à présent. Hein. Un mot qu'on n'a pas prononcé, la programmation. C'est bien ça qui va se produire. L'État envisage de faire énormément d'investissements et de dépenser beaucoup d'argent en peu de temps. Et donc, il y a au moins un problème de programmation de l'État et de concertation. Vous savez, l'État, une grosse bureaucratie. Hein. Il y a plein de silos, hein. Il y a plein de morceaux de l'État, chacun très fier, très prêt à défendre ses prérogatives, et il n'est pas évident que tout ça s'harmonise sans une action venant du haut. Or, logiquement, le commissariat au plan pourrait servir à ça. Donc oui, je pense que de ce point de vue-là, on a bien le réducteur d'incertitude, hein, quelque part, qu'envisageait Pierre Massé autrefois. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
I have something to tell you.
Reprise de Que Sera Sera de Doris Day par Wax Taylor sur France Culture. D'entendez-vous l'écho. Ce que nous dit bien cette chanson, Patrick Allard, c'est ce qu'on disait au début de cette émission, ce désir si humain de savoir de quoi l'avenir sera fait.
La chanson ?
Oui. Ça nous dit bien à quel point on a besoin qu'on soit, comme on le disait, un individu, une entreprise, un État. On a besoin, pour prendre des décisions, de savoir de quoi l'avenir sera fait.
Et fondamentalement, quand vous faites de la prévision, vous faites de la prévision sur le comportement des gens et quelque part, vous faites de la prévision sur leurs anticipations. Or, c'est quelque chose de très difficile à saisir, c'est assez opaque. Alors, encore une fois, on a des indicateurs, hein. C'est comme ça que c'est né, hein. Il y a des actions dont on voit les effets visibles, hein. C'est tout ce qui est, et rapidement, c'est tout ce qui a lieu sur les marchés financiers. Où là, quand les gens, tout à coup, voient une boîte, je prends l'exemple de la boîte chinoise là qui vient de se faire menacer, de se faire priver, la boîte de microprocesseurs qui vient de se voir menacée d'être privée de savoir-faire américain, la bourse, son cours de bourse, il a tombé du jour au lendemain de 20%. Les gens ont intégré ça. Donc on voit bien qu'ils n'anticipent pas que le développement de l'entreprise puisse continuer comme antérieurement, et ça se voit tout de suite, ça. Donc on a des informations là-dessus. On peut demander aux gens, aux entreprises, aux particuliers, aux ménages, ce qu'ils anticipent. Donc il y a plein d'enquêtes là-dessus depuis très longtemps qui sont d'une grande richesse et qu'on peut utiliser à des fins de prévision.
Des statistiques et des enquêtes qui permettent d'élaborer des modèles, puisque voilà. C'est comme ça qu'on cherche à prévoir l'avenir. L'économiste Lawrence Klein en parlait déjà en 1950 dans son ouvrage « Fluctuations économiques aux États-Unis ».
Le but d'élaborer des modèles macroéconomiques est de décrire la façon dont le système fonctionne réellement. Nous voulons dépasser ce qui est suggéré par Tinbergen dans le titre de son livre « L'analyse statistique de la théorie des cycles ». Nous voulons découvrir la ou les meilleures théories qui expliquent les fluctuations que nous observons. Si nous connaissons les caractéristiques quantitatives d'un système économique, nous allons pouvoir prévoir avec un degré de probabilité connu certains niveaux économiques comme le chômage, la production ou le revenu, Et nous allons également pouvoir prévoir, avec un degré de probabilité connu, les effets sur le système de diverses politiques économiques.
Un texte lu par Antoine Jourdan de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Les modèles dont part ici Lawrence Klein sont des modèles d'inspiration keynésienne, Patrick Allard ?
Ah oui, absolument. Celui-là est le modèle de Klein qui date totalement d'inspiration keynésienne.
Alors expliquez-nous en quoi est-ce qu'il consiste ?
C'est des modèles qui sont calés sur... sur une comptabilité nationale qui se met en place, donc déjà ils résonnent dans ce cadre-là, et ils décrivent l'évolution de grandeur agrégée. Ils vous décrivent donc la consommation des ménages que vous captez à travers les statistiques, ventes, etc. Donc vous avez ça, et vous essayez de l'expliquer. Le problème, c'est que vous avez à expliquer quelque chose qui fondamentalement est construit. La consommation des ménages, c'est la mienne, c'est la vôtre, tout ça s'additionne, etc. Chacun prend les décisions en fonction des anticipations qui sont les siennes. Et puis voilà, donc il s'agit de traiter cet agrégat-là, on parle d'agrégat, comme s'il n'était pas fait de milliards de décisions. Donc vous avez un travail d'agrégation qui est puissant quand même, qui est lourd, enfin qui est une espèce de postulat assez considérable, qu'on a fait. Sous l'impulsion de Keynes, qui est le créateur de la macroéconomie, qui n'existait pas avant. Avant, on avait de la micro. Donc, c'est les premiers à avoir fait ça. Alors, sous la base de constatations faites dans les années 30, que quand même, les marchés, dans certains cas, livrés eux-mêmes, ça ne marche pas très bien. Et donc, ce serait peut-être pas plus mal que quelqu'un qui a les moyens, qui voit plus loin, qui a les poches plus profondes, qui a de l'argent, qui peut s'endetter, prenne les décisions adéquates pour... ramener le plein emploi.
Mais ces modèles d'inspiration keynésienne, Patrick Allard, ils vont être remis en question après justement le premier choc pétrolier de 1973.
Exactement, ces modèles sont, disons simplistes si vous voulez. Et vous voyez, j'insiste bien sur l'espèce de coup de force intellectuel que vous avez à réduire ces milliards de comportements, ces myriades de comportements individuels en des grands agrégats, c'est le mot qu'on leur donne, captés par la comptabilité nationale. Donc comment vous expliquer le cheminement de ce monstre intellectuel qu'est la consommation des ménages. Fondamentalement, ça n'existe, ça ne se rencontre nulle part.
Mais le problème, c'est que dans les années 70, pardon de vous couper, ces modèles ont du mal à expliquer la persistance d'un taux de chômage et d'une inflation élevée.
C'est le sens de la critique qui a été formulée. Il y a toujours eu des gens qui étaient très cons. Tous les microéconomistes détestaient ce genre de comportement. Et ils ont dit, il y a eu une critique très, très forte qui a fini par l'emporter, qui a dit, mais ce que vous nous racontez sur la consommation des ménages, c'est déterminant, etc., tout ça, c'est du pipeau. Il n'y a pas de fondement théorique à ça. Et ces fondements théoriques, on ne peut les chercher que d'un côté, du côté de la microéconomie. Donc, faites-nous éventuellement de la macro, mais préoccupez-vous de donner au moins une représentation qui fait sens du point de vue de la microéconomie, c'est-à-dire que vous ayez en dessous un comportement des agents qui soit rationnel. Et alors, ça vous débouche la critique suivante, c'est que vous êtes un État et vous pensez que si vous trompez les gens sur l'inflation, ils vont consommer plus que s'ils n'étaient pas trompés. C'est-à-dire que si vous arrivez à les tromper sur l'inflation, ils vont se tromper sur les prix futurs, ils vont pas voir que l'inflation et que donc dans le futur, ils sont plus pauvres qu'aujourd'hui, et ils vont néanmoins consommer. Cherchez l'erreur, quelque part. Les gens sont pas idiots. Et ça débouche donc sur toute la critique des anticipations rationnelles qui, elle, a clairement poussé le bâton de l'autre côté en considérant que chacun, vous, moi, il était capable de faire une prévision d'ensemble de l'économie en tenant compte de toutes les informations pertinentes et donc jamais nous ne pourrions être trompés par un gouvernement qui essaierait de nous faire croire qu'il n'y aura pas d'inflation demain et que, allez-y, consommez, ou bien que la dette n'aura pas été payée dans le futur et donc, allez-y, tout va bien.
Ce qu'on comprend bien, Patrick Allard, c'est que ces modèles, ont un certain nombre de limites. Le problème qu'on peut, par exemple, voir dans les prévisions de court terme, telles que Keynes les avait définies, c'est qu'elles sont systématiquement optimistes aujourd'hui, quel que soit l'organisme qui les produit. C'est l'une des limites à la prévision économique telle qu'elle existe aujourd'hui.
Elles sont toujours un peu pessimistes, optimistes, effectivement, parce que j'imagine que ce doit être un trait de l'esprit humain.
C'est en tout cas l'avis de Christophe Barrault, voilà, qui a été élu meilleur prévisionniste du monde pour la 8e année d'affilée.
Dans le cas des États, on comprend d'où vient ce... Enfin, dans le cas des budgets économiques, par exemple, associés à la loi de finances, on comprend bien d'où vient cet optimisme. Hein. C'est que l'État, il a toujours intérêt à peindre les choses de la couleur la plus rose possible. Mais dans le cadre de... Précisément à cause de tout, toutes les prévisions auxquelles la prévision de l'État est confrontée, l'État doit faire attention, donc il ne peut pas trop... tout ça est entouré de contenu dans des limites.
Une critique plus grave peut-être, ouais, alors, ce sont le fait que ces prévisions ne sont pas assez utiles pour anticiper les chocs, et c'est ce qu'on a vu par exemple avec la crise financière de 2008.
Mais bien sûr. De toute façon, ces prévisions, ces modèles... Bon, encore une fois, on est confronté à un problème, c'est qu'il faut découvrir les lois les lois d'évolution de grands agrégats économiques, l'investissement, la consommation, etc. On faisait ça de manière assez brutale et peu sophistiquée dans les années 60, jusqu'aux années 60. Depuis, on fait des choses plus élaborées. Les modèles d'aujourd'hui sont bien plus élaborés, même s'ils ont encore de gros problèmes. Prennent mal en compte le secteur financier, ce qui, excusez du peu, est quand même une lacune considérable. Mais néanmoins, ils tiennent mieux, ils sont mieux fondés dans la théorie économique, et en particulier, on peut raccrocher ce qu'on dit sur la consommation au comportement de ce qu'on peut savoir du comportement individuel des ménages. Mais on a quand même un problème par rapport au choc. C'est qu'en fait, bon, même si vous avez ça débouche sur des équations. Même si vous avez des équations qui sont estimées sur la base de paramètres qui reflètent de manière rigoureuse, au sens de la théorie économique, le comportement des ménages, quand même, vous les estimez sur le passé.
Alors, comme la crise sanitaire, voilà, absolument imprévisible.
Vous êtes censé prendre vraiment soin de tout ça, c'est-à-dire estimer des comportements qui sont structurels, comme on dit. C'est-à-dire que ils sont pas dépendants de la politique économique de la veille, donc on va pouvoir identifier l'effet de votre politique économique sur le comportement des ménages, parce que précisément les comportements sont censés être appréhendés de manière structurelle. Mais encore une fois, c'est estimé sur le passé, et donc quelque part ce que vous allez repérer, c'est d'éventuels écarts du comportement par rapport à ce qui s'est passé dans le futur. Et plus fondamentalement, c'est tous les modèles que vous faites, ils ont tendance à revenir à l'équilibre.
Dans quel sens ?
Ces comportements, vous avez un certain revenu régulier, vous, imaginez. Vous avez un revenu régulier. Vous allez consommer une certaine fraction de ce revenu en fonction de votre âge, de la taille de votre famille, de votre niveau de patrimoine, de ce que vous anticipez comme les prix dans le futur, des choix d'investissement que vous faites, etc. Je peux estimer ça, je peux le calculer. Comment vous réagirez à l'aléa, moi, j'en sais. Ce que je peux anticiper, c'est que vous réagirez à l'aléa, par exemple, en épargnant plus ou en épargnant moins, parce que vous voudrez précisément lisser votre consommation, hein, c'est ce que vous allez faire, etc. Mais l'aléa, vous ne le saisissez pas, vous le constatez.
Et il y a d'autres aléas qui posent problème et qui fragilisent ces prévisions. Vous en distinguez deux qui sont présents chez les prévisionnistes, donc ces économistes qui élaborent les prévisions. Ce sont plus des biais que des aléas, mais il y a ce que vous appelez la prudence réputationnelle et puis aussi le comportement moutonnier. Expliquez-nous ça.
C'est la remarque que vous faisiez tout à l'heure. Vous posiez la question de savoir si le fait d'avoir une multitude de prévisions et d'organismes de prévision était une richesse ou un biais. Bon, la réponse, elle est très, très, très clairement, c'est une richesse, puisqu'il y a au moins débat à partir de ça, possibilité de débat, et souvent débat effectivement. Et puis par ailleurs, chacun fait attention à ce qu'il dit. Mais c'est précisément le côté négatif de l'impact réputationnel. Vous avez une crédibilité à soutenir. Vous pouvez donc difficilement prendre des positions. Enfin, Vous pouvez le faire, on peut toujours le faire, mais
Alfred Sauvy se vantait d'avoir été l'un des seuls justement à prévenir que la croissance allait revenir dans les années 30 et il avait effectivement eu raison.
Voilà, mais en règle générale, les gens ordinaires, des gens qui ne seraient pas allés faire Sauvy, ont tendance à ne pas s'écarter trop du consensus. Vous savez, non seulement, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais non seulement il y a une foultitude de prévisions faites par des organismes privés, mais il y a un organisme international, enfin une revue internet, qui s'appelle Consensus Forecast, qui vous publie chaque mois, mise à jour, la liste et qui calcule les principales prévisions des banques et des instituts et qui vous donne un indicateur de la tendance, la moyenne de tout ceci. Mmh. Donc vous voyez, donc non seulement on a une foultitude, et donc quand même l'idée de quelque chose autour de la moyenne, elle est rendue visible. Hein, par ces mécanismes-là.
Et peut-être aussi, il y a cette part d'interprétation qui subsiste, même si, on l'a dit, les prévisionnistes s'appuient sur des modèles et des calculs. Il y a toujours une nécessité d'interpréter, il y a toujours une part peut-être d'intuition, il s'agit d'élaborer divers scénarios possibles.
Vous avez une variété de d'institutions qui font des prévisions, et une bonne partie d'entre elles le font parce qu'ils ont besoin de le faire pour leur activité particulière, c'est le cas des organismes professionnels, et donc eux éventuellement ils peuvent bénéficier d'une information plus particulière, si vous représentez la Fédération des constructeurs en immobilier, vous avez éventuellement une information qui revient de vos mandants, qui est plus fine que celle dont vous pouvez avoir. Grâce à ça, pour peu que votre secteur soit important, vous pouvez vous écarter des prévisions d'ensemble, où ça peut arriver, oui.
Moi, j'ai jamais su faire de comptabilité, on peut vous l'avouer. C'est pas du tout la même chose, la statistique et la comptabilité. C'est la statistique, tout au moins économique, c'est d'arriver à faire avec de l'inexact, de l'à peu près. De l'à peu près qui puisse servir convenablement. Il n'y a pas besoin d'avoir une quatrième décimale quand il s'agit de faire une politique dont tout le monde sait qu'elle est faite avec l'entier prêt. Par conséquent, il n'y a pas besoin de donner des chiffres trop précis, trop rigoureux pour dégager sa responsabilité.
Vous avez reconnu l'économiste et démographe Alfred Sauvy, dont on a parlé, qui est entré à la Statistique Générale de France en 1922. Que vous inspirent ces propos, Alfred Sauvy? On voit bien qu'il nous parle ici de cette difficulté à atteindre l'exactitude en matière de prévision.
Oui, enfin, on ne peut qu'approuver ce qu'il dit. Fondamentalement, on retombe sur la remarque qu'avait fait tout à l'heure Pierre Massé, c'est-à-dire qu'on est confronté, quand on est prévisionniste, à l'aléa. Ça va ensemble. Et d'ailleurs, il en concluait qu'il valait mieux, finalement, et je pense que Sauvy aurait été d'accord, plutôt que chercher à avoir des prévisions d'une grande précision, faisons ce qui est utile, faisons ce qui est nécessaire pour, grosso modo, faire un budget qui se tient. N'essayons pas de sophistiquer très au-delà. Encore que ce que je viens de dire, je ne sais pas très bien ce que j'en déduis au niveau d'une organisation comme la direction du Trésor à Bercy. Je ne sais pas très bien ce que ça peut signifier pour eux. Mais enfin bon. Donc, faisons les prévisions utiles avec un niveau de précision dont on sait que de toute façon on ne pourra même pas parvenir à lointainement effleurer la perception.
Des prévisions qui peuvent se retrouver à justifier effectivement des politiques économiques et qui peuvent aussi avoir une fonction autoréalisatrice. Elles peuvent avoir une incidence aussi sur les comportements et en cela le prévisionniste a une grande responsabilité.
Oui, c'est certain. Logiquement, on est dans, enfin, les modèles de prévision qu'on a aujourd'hui, normalement supposent que les agents perdent ce genre de voile, hein, que les agents ne sont pas influençables de cette manière, on peut pas les tromper. Hein. Vous connaissez la formule, on peut tromper une partie des gens
mille fois,
etc. Donc c'est cette formule-là qui s'appliquerait, et donc parce que les gens, ils ont leur propre expérience, leur propre domaine de compétences, même s'ils font pas des modèles aussi sophistiqués, et c'est ça qui suffit en fait à leur permettre d'avoir un comportement rationnel qui, par combinaison, etc., donnera le résultat. Donc, en principe, on ne peut pas tromper trop les gens.
Patrick Allard, aujourd'hui avec la crise sanitaire, on l'a dit, l'incertitude est extrêmement importante et les changements extrêmement rapides, à tel point qu'on a le sentiment que les grands indicateurs sont dépassés. Qu'est-ce que vous pensez de ces changements et notamment aussi du fait que les géants du numérique développent maintenant des indices permettant de prendre le pouls de l'économie, je pense en particulier aux données de géolocalisation qui permettent de mesurer la chute de fréquentation dans les commerces en temps réel ou presque.
Voilà. Oui, c'est certain qu'on a maintenant des instruments de prévision du présent, hein, de description de la conjoncture, qui sont beaucoup plus variés et sans doute plus puissants, sans doute plus précis, sans doute plus pertinents qu'autrefois. Et ceux dont vous parlez, qui sont produits par Google, sont effectivement intéressants parce qu'ils illustrent, par exemple, quand on compare d'un pays à l'autre, à quel point les mesures de confinement décidées par les États, en fait, ont été importantes, mais pas déterminante. Des pays où il y a beaucoup moins eu de confinement qu'en France, où il y a néanmoins beaucoup plus, autant de méfiance, sinon plus de méfiance des gens à aller au travail, ou bien à se rendre au restaurant, ou dans les salles de spectacle. Et ça, on peut le capter. Alors, on peut le capter en temps réel, pas. Aujourd'hui, on a, grâce à tous ces mécanismes-là, il y en a plein d'autres qu'on pourrait évoquer encore, on arrive à faire ce qu'on appelle du nowcasting, hein, c'est-à-dire on arrive à sortir des prévisions de l'activité en temps réel. Il y a même des pays, il me semble que la Grande-Bretagne le fait, on a du PIB mensuel grâce à ce genre de choses. Alors, vous voyez ce qui se passe. C'est pas de la comptabilité nationale, exactement. On utilise le cadre comptabilité nationale et on fait grandir, on fait évoluer les grandeurs qui composent la comptabilité nationale en question en fonction des indicateurs qu'on a. Donc, on peut faire ça.
Et est-ce qu'il faudra nécessairement passer par les géants du numérique et auquel cas, en passer par une coopération entre Google et Apple et les instituts de statistiques avec toutes les limites que ça peut comporter en termes de protection de données?
J'ai l'impression que Google et Apple sont soumis à suffisamment de, peut-être pas suffisamment, vous avez raison, implicitement, de restrictions à leur collecte des données. N'empêche qu'ils donnent ce genre d'informations. Je trouve qu'on aura du mal à s'en passer au moins dans la période actuelle, et que c'est plutôt une richesse. Je vois pas l'INSEE capable de faire ça. Hein. Il faut un acteur ou un acteur public. D'ailleurs, pourquoi? Bon, à la rigueur, France Télécom aurait pu le faire, enfin, Orange aurait pu le faire, ils peuvent le faire.
Un géant du numérique, mais français, voilà. Ou européen.
Exactement, voilà, mais ce sera la même chose, on a les mêmes problèmes de collecte et d'utilisation des données, que ce soit un acteur ou par un autre. On voit bien le cas chinois, hein. Le cas chinois illustre bien à quel point, quand il y a beaucoup de données qui sont collectées sans respect des règles de la confidentialité, on peut aller très loin dans la coercition à partir de ça.
Donc pour vous, Patrick Allard, les prévisions sont encore utiles dans ce contexte de crise sanitaire, peut-être à condition d'intégrer dans les modèles de prévision cette variable qui est l'incertitude sanitaire.
L'incertitude sanitaire pendant un certain temps, oui, mais pas indéfiniment. Personne ne prévoit, ne prétend être capable de prévoir qu'une autre crise sanitaire interviendra dans les... je ne sais même pas à quel horizon on peut le penser. Ce qu'on a vu, c'est que des gens vous disent, regardez, des grandes pandémies comme ça, jusqu'à présent, il y en a grosso modo 3 par siècle. Donc, on n'en a pas eu plus de 60 ans. Est-ce que, etc. Mais c'est ex poste, ça, hein, qu'on dit ça. Donc, et puis en plus, ce genre, je ne pense pas que ce genre de pandémie soit soumise, on puisse le soumettre à des comportements aléatoires comme ça. Il n'y a pas de probabilité de ça, je pense.
Merci beaucoup, Patrick Allard, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. J'envoie les éditeurs au chapitre que vous avez rédigé dans l'ouvrage « Prévoir le monde de demain » dirigé par Paul Dahan et publié aux éditions du CNRS en juin dernier. Un chapitre intitulé « Les prévisions économiques futiles ou utiles ?» point d'interrogation. Un grand merci d'être venu dans nos studios.
Je vous remercie vous-même.
France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Branle-bas de combat dans les banques centrales américaines et européennes. Face à la crise, les autorités doivent trouver de nouvelles armes et font ressurgir le démon de l'inflation.
Oui, et le sorcier n'est autre que la banque centrale américaine, la Fed, qui a annoncé la semaine dernière s'autoriser à dépasser le seuil fatidique de 2% d'inflation. Inflexion, mini-révolution ou tournant historique selon les observateurs, la Fed vient en tout cas de rompre avec 30 ans de politique de grande modération qui consistait à limiter la hausse des prix jugée trop risquée, et elle prend à contre-pied l'inspirateur des politiques libérales américaines, Milton Friedman.
Si on veut regarder les choses en face, il faut reconnaître que l'inflation est la maladie la plus dangereuse pour les sociétés modernes. Rien ne les menacerait plus profondément et plus globalement que de lâcher les rênes de l'inflation.
Voilà, on était dans les années 80. Avec la crise, tout s'est renversé. Friedman prohibait les relances monétaires mauvaises, même dans le but de réduire le chômage, car source d'inflation. 40 ans plus tard, la relance se fait à coups de milliards. Et malgré la baisse du chômage ces dernières années, la faible inflation américaine est préoccupante. Et la Fed prend donc des risques nouveaux. Après s'être aussi engagée dans une politique d'auto-bas, c'est-à-dire l'argent bon marché, l'institution ignore maintenant le voyant d'alarme qu'elle utilisait dans ce qu'on appelait le monde d'avant.
Pour certains, révolutionnaire pour d'autres, le changement de stratégie de la Fed interpelle les Européens, Xavier.
Oui, puisque c'est ce jeudi que la BCE doit annoncer sa propre politique, et jusqu'ici, elle s'était fixée 2% d'inflation maximum, et en Europe aussi, c'est moins le démon de l'inflation qui guette que le spectre de la déflation, comme titrait le Figaro. D'ailleurs, en août, pour la première fois depuis 2016, les prix ont reculé. Cette inflation en rase-motte n'est pas tout à fait nouvelle, mais la persistance du phénomène en période de relance accentue le problème, et le risque d'une spirale déflationniste, comme le disent beaucoup, n'est pas loin. Faible demande, pas d'augmentation des profits des entreprises, pas d'augmentation des salaires. Alors sans lâcher les rênes, la BCE ira-t-elle aussi chevaucher le démon des prix qui montent?
En tout cas, voilà la bête libérée, puisque la Fed affirme que l'inflation n'est plus un obstacle au plein emploi.
Oui, elle vient ainsi briser l'une des tables de la loi des politiques économiques de marché, comme écrit le Nouvel Économiste. Cette loi, vous en avez abondamment parlé l'année dernière, Tiffaine, c'est la courbe de Phillips, une étude statistique publiée en 1958 qui suggère une relation inverse entre l'évolution de l'emploi et celle des prix. Plus le chômage est bas, plus l'inflation est forte. Et si tout va bien, il existe une petite zone dans laquelle les deux peuvent être relativement faibles ensemble. Alors causalité directe ou simple corrélation, l'hypothèse, parfois vérifiée, parfois démentie, a aussi été un des terrains de l'affrontement entre économistes néoclassiques et keynésiens, et elle ne se vérifie en tout cas toujours pas aujourd'hui dans la relance. La courbe a donc perdu de sa rondeur pour devenir plus plate, et en annonçant la nouvelle politique de la Fed le 27 août dernier, son président Jerome Powell l'a balayé d'un coup de pied.
Il y a quelques décennies, quand la courbe de Phillips était plus marquée, l'inflation tendait à augmenter nettement en réponse à un marché du travail plus vif. Et c'était parfois pertinent que la Fed intervienne pour resserrer la politique monétaire et éviter la surchauffe. Mais en passant à une estimation d'un plein emploi inclusif, plutôt qu'un chiffre global, nous disons que le taux d'activité peut désormais grimper au-delà de son niveau optimal sans qu'il faille s'en inquiéter.
Nouvelle compréhension du risque inflationniste, la priorité n'est plus de modérer l'inflation au risque de faire croître le chômage, mais bien de stimuler dépenses et investissements, quitte à supporter plus d'inflation.
Et alors y aura-t-il pour l'Europe un horizon au-delà des 2%? Les banques centrales jouent une partie de leur crédibilité.
Oui, à travers leur influence en tant qu'institution garante de la stabilité des prix et leur capacité à prévoir et envoyer au marché des signaux clairs, bref, à maintenir ou ne pas nuire du moins à la confiance. Au-delà des débats de chiffres, c'est aussi cela qu'il faut préserver. Or, d'une part, le seuil de 2% établi par consensus est aujourd'hui d'autant plus fragile que la mesure de l'inflation sur laquelle la Fed, la BCE ou la Banque nationale suisse s'appuient est critiquée. Et puis, la série de politiques non conventionnelles dues aux crises successives sont aussi autant de tests pour cette crédibilité, puisque même justifiées par des circonstances exceptionnelles, les banques centrales envoient là des signaux ambigus, situation bien résumée par Didier Saint-Georges, l'investisseur dans Le Monde, entre le scénario de ce qu'il appelle le lendemain arbitrage déflationniste ou l'ultime reprise keynésienne, la marge est étroite pour que la puissance reflationniste des décisions des banques centrales s'exprime. On verra donc jeudi prochain avec le discours de Christine Lagarde. Déjà l'année dernière, la BCE réfléchissait à abandonner sa cible de 2%, je cite, en autorisant une inflation légèrement supérieure à l'objectif, sans qu'il ne faille immédiatement durcir la politique monétaire. On le voit, pas si loin que cela des États-Unis.
Merci beaucoup pour vos éclairages, Xavier Martinet. On vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau Journal de l'Écho. C'est la fin de votre magazine d'économie. Demain, peut-on modéliser le hasard quand les mathématiques se mettent au service de la finance? On en parlera avec Nicole El-Karoui. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.